Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Salut les fous du volant, bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission consacrée à la Formule 1. Je suis Gilles Della Posta et avec Stéphane Vrillot, on va revenir sur l'actualité de la Formule 1. Ça va Stéphane, en forme ?
Comme toujours, et toi Gilles ?
Impeccable. Ce podcast, qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast et même par Apple Podcast, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Au sommaire, aujourd'hui, Vettel, la résurrection, Alonso, la réaction à Bakou. Il y a une dizaine de jours, l'Allemand a offert à Aston Martin son premier podium, pendant que l'Espagnol, lui, s'illustrait pour la première fois depuis son retour en F1. On reviendra sur les leçons qu'on peut tirer concernant les deux hommes de cette épreuve. Nouveau changement du côté de chez Ferrari, Mattia Binotto qui descend du muret des stands pour laisser la place à un jeune stratégiste, une énième réorganisation qu'on essaiera de décrypter du côté de la Scuderia. Et puis à quelques heures du Grand Prix de France, Éric Boullier, le directeur général du GP de France, nous fait l'amitié de se confier à nous. On débute donc C'est fou du volant aujourd'hui avec un sujet consacré au revenant au, en quelque sorte, Sébastien Vettel, la résurrection, et puis Fernando Alonso, la réaction. On va commencer, Stéphane, si tu le veux bien, par l'Allemand. Deuxième donc de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan derrière Sergio Pérez, pour la première fois donc de retour sur le podium, pour la première fois en tête d'un Grand Prix depuis, je crois que c'était 2019, hein, qu'il n'avait pas mené une épreuve. Et puis surtout, donc, c'est le premier podium dans l'histoire d'Aston Martin en Formule 1. Et ce n'est pas la première fois que l'Allemand, finalement, ouvre la voie à une nouvelle équipe, ou en tout cas, fait quelque chose de nouveau pour une équipe en Formule 1.
Oui, Gilles, on a regardé tout simplement ce qu'il avait fait auparavant dans ses premières écuries. Alors là, sa première vraie écurie, c'était Toro Rosso. Il avait fait simplement un Grand Prix avec BMW. Et à Toro Rosso, il a offert la première pole position et la première victoire. C'était en 2008 à Monza. Et puis, idem avec la toute jeune écurie Red Bull, créée en 2005. En 2009, il lui donne sa première pole position, sa première victoire. Et donc là, Aston Martin, il complète le tableau. Un premier podium, c'est le tout premier dans l'histoire d'Aston Martin, qui avait fait quelques grands prix en 1959 et 60, je crois. Donc c'est quand même assez significatif, sachant qu'il revient quand même de loin, quoi. On le croyait un petit peu perdu en début de saison, il était même perdu. C'est un sacré rétablissement. Et bon, ben là, on a affaire un petit peu à un spécialiste, quelqu'un qui sait mettre les gens de son côté, les agrégés autour de lui. C'est un fédérateur et il l'a encore montré chez Aston Martin.
L'expression qui m'est venue, c'est finalement que Sébastien Vettel a montré à Bakou qu'il était toujours parmi ceux qui font partie des premiers de cordée, c'est-à-dire ceux qui montrent la voie à leur équipe, à leur staff. Et puis pour parler, tu parlais de Red Bull, non seulement c'était la première pole, la première victoire, c'était aussi le premier titre mondial, hein, et pour le moment d'ailleurs les seuls que Red Bull ait obtenu, c'est par l'intermédiaire de l'Allemand. C'est un résultat qui lui permet aussi de se replacer au niveau du classement des pilotes. Il est désormais 9e au championnat, juste derrière Pierre Gasly, juste devant Daniel Ricciardo. Pour un pilote qu'on disait un petit peu usé, voire même pour les plus sévères des spécialistes, has-been, ben, c'est plutôt pas mal comme voisin de championnat. Hein. Pierre Gasly, qu'on évoque dans la plus grande des écuries en ce moment, hein. Daniel Ricciardo qui a quand même une sacrée cote, c'est plutôt rassurant pour l'Allemand.
Oui, Nico Rosberg, en fait, s'était demandé s'il faisait encore quelque chose, s'il était capable de faire quelque chose de bien en Formule 1, lui qui a pris sa retraite à 32 ans, et on se posait la question, mais que fait-il là? Est-ce qu'il est motivé? Il a répondu oui. Il a dit qu'il avait du plaisir et tant que ça serait le cas, il essaierait de rester en Formule 1 parce qu'il avait conscience qu'il y avait que 20 places, c'était limité. Il a fait un petit parallèle avec Roger Federer en tennis en disant mais Roger, il s'inscrit dans les tournois, il essaie de jouer jusqu'à 40 ans, mais finalement, il prend la place de personne. Et moi, je prendrais peut-être la place de quelqu'un et je ne veux pas prendre la place d'un jeune si je ne le mérite pas. Donc, je saurais me retirer à temps. Alors, Bakou, c'est quand même, quand on y pense un petit peu, son circuit fétiche. Il a fait que des top 4 depuis 2016, depuis le premier Grand Prix à Bakou, il y en a eu 5. Donc ça, c'est quand même une preuve d'une belle régularité. Et puis, il fait un top 5 aussi à Monaco, donc un top 2 à Bakou. C'est sa plus belle séquence depuis la fin du championnat 2019, Sao Paulo, Austin, je crois. Non, Mexico, Suzuka. Voilà. Donc, il a un petit peu retrouvé, je dirais, ses marques. Il dit, en fait, quand on pilote, ça ne s'oublie pas. Mais simplement, il fallait que tout se mette en place. Il a dit une chose quand même, depuis Monaco, ça va mieux, je sens mieux la voiture.
Exactement. Alors, il y a aussi une petite phrase qui est venue du patron de Sébastien Vettel, Otmar Szafnauer, qui a confié ô combien les débriefings de Sébastien Vettel après les Grands Prix étaient longs, fournis. Il a même dit que c'était parfois même trop d'informations à ingurgiter pour ses ingénieurs. Mais c'est vrai que ça dure apparemment très très longtemps, les débriefings de Sébastien Vettel, qui est capable de vous dire tour après tour ce qui s'est passé au niveau de la voiture, des pneumatiques, des réactions de l'un par rapport à l'autre. Moi, ça me fait penser un petit peu, Stéphane, à une réflexion qu'on m'avait fait du côté de chez Citroën au moment où il y avait Sébastien Loeb et Dany Sordo qui étaient donc dans l'équipe française. Et Sébastien Loeb, évidemment, écrasait régulièrement Dany Sordo. Et à la suite d'un rallye sur lequel je m'étais rendu, Sébastien Loeb gagne avec 1 minute 30 d'avance sur Sordo, ce qui est un écart colossal, en plus sur un rallye en asphalte. Le débriefing de Dany Sordo dure un quart d'heure, il fait deuxième, donc c'est un bon résultat. Le débriefing de Sébastien Loeb, qui a gagné, dure plus de 2 heures. Et j'avais un des ingénieurs qui m'avait dit, à la régulière, ça ne peut pas changer, parce qu'avec Seb, on revoit spécial par spécial, quasiment virage par virage. Ce parallèle, Stéphane, pour te dire que c'est pas un hasard si Sébastien Vettel a été quadruple champion du monde, c'est bien qu'il a cette faculté à retenir, à analyser et ensuite à restituer à ses ingénieurs cette somme d'informations colossales, qui agrège en plus autour de lui toute cette équipe, et on sait que c'est vraiment ce dont il a besoin pour donner le meilleur de lui-même, et c'est ce qu'il a fait à Bakou.
Oui, il avait ouvert de nouvelles voies, de nouvelles méthodes de travail chez Red Bull. En tous les cas, c'était un gros bosseur. Dès qu'il est arrivé en 2009, ils s'en sont aperçus. Il était encore dans la télémétrie à 23 heures sur les circuits quand la plupart des pilotes étaient à l'extérieur. Et c'est Christian Horner, son ancien patron de chez Red Bull, qui a dit bah oui, effectivement, avec Seb, ça pouvait durer indéfiniment. Il nous donnait même trop d'informations après les courses. Alors que avec Marc Weber, c'était réglé au bout d'un quart d'heure, il n'avait plus rien à dire. Donc forcément, ça fait la différence en termes de réglage, de ressenti, et puis de voie de développement, parce que c'est le pilote quand même qui dit où est-ce que ça ne va pas, où est-ce qu'il faut aller chercher de la performance. C'est ça qui est important. Et ça s'est un petit peu ressenti encore dans son savoir-faire, tout ce background. Il a fait durer ses pneus 18 tours, c'est deux fois plus que Leclerc, que Charles Leclerc, qui est en pole position, c'est de tendre. Et là, ensuite, il a dit, ça crée un décalage qui m'a permis ensuite d'attaquer des pilotes. C'est vrai, après le restart, après l'accident de Stroll, il a gobé des pilotes qui avaient des pneus durs, qui étaient un peu plus usés que les siens, qui avaient plus de tours. Et ça, la différence est faite là-dessus, c'est à la stratégie.
C'est à la stratégie et c'est aussi à cette faculté finalement d'être déterminant dans le money time. On va en parler concernant Fernando Alonso, mais on sait que dans les Grands Prix, il y a un premier temps très fort, c'est le départ. Là, à Bakou, il y a eu une situation un petit peu particulière avec ce nouveau départ à deux tours de l'arrivée. Et ces deux tours ont été vraiment mis à profit par Sébastien Vettel et Alonso, on va en parler. Mais le départ, c'est le premier temps fort d'un Grand Prix. Et Stéphane, les statistiques ne trompent pas. Vettel, c'est presque un serial killer au départ.
Oui, je me suis demandé ce qu'il faisait vraiment sur les départs, est-ce qu'il gagnait des places? Alors évidemment, quand il part entre la 12e et la 15e place, c'est plus facile de gagner place, mais il y en a aussi qui en perdent ou qui n'en gagnent pas autant. Il est l'un des deux seuls pilotes avec Kimi Räikkönen à avoir gagné des places systématiquement ou être resté sur sa position de grille à la fin du premier tour cette saison en 6 Grands Prix. Et ça donne un total un gain de 10 places, ce qui est quand même intéressant. Räikkönen en a gagné 11 en tout. Ça veut dire que il arrive ensuite, à la fin du premier tour, quand on passe là toute cette foire d'empoigne, à développer la stratégie qui est prévue. Ça, c'est super important. Il y a un plan qui est en place et il l'applique. Chez Aston Martin, on a même dit sur ce tour qui précède le départ, donc c'est le tour de formation, ce qu'on appelle ça, il faut chauffer les pneus, il faut les amener en température, c'est complexe, etc. Le débrief, juste pour ça dure une demi-heure. Les procédures, la température à obtenir, parce que chaque circuit est différent finalement, il y a une problématique différente à chaque fois, et c'est comme ça. La course pour lui commence dans ce tour-là, avant même le départ. C'est dire le niveau de détail qu'il a atteint, quoi.
C'est clair. On va parler maintenant de Fernando Alonso qui lui a terminé sixième de ce Grand Prix de Bakou. Alors évidemment, c'est pas aussi bien que ce qu'a fait Sébastien Vettel, mais on attendait un signe, on attendait quelque chose de la part de l'Espagnol. Et il y a eu, je le disais, ces deux tours-là après donc ce format de course sprint, l'interruption due à l'accident de Max Verstappen, deux tours pour aller chercher des points pour Fernando Alonso qui s'est lancé dixième à ce moment-là sur la grille. Il termine sixième. Je veux dire, c'est encore une fois la capacité là à bonifier une situation en l'espace de quelques minutes. Hein. C'est à ce moment-là qu'il faut faire l'action. Et Fernando Alonso a montré qu'il était toujours dans le coup, que quand il y avait l'odeur du sang, l'Espagnol était là.
Oui, alors chez Alpine, on s'est carrément emballé. On a parlé de Magic Alonso, hein, le mythe un petit peu du champion du monde 2005 et 2006 qui revient. Ce compliment qu'on lui fait souvent, lui dit on ne sait pas si tu es le plus rapide, mais en tous les cas, tu es le plus complet. Et c'est à ça qu'on le booste aussi. Et c'est ce qu'il aime vraiment. Mais en 6 Grands Prix, ça fait 3 fois qu'il est en Q3. Donc c'est aussi bien que sur toute la saison chez McLaren en 2018. Donc déjà, c'est fort ce qu'il fait. On sent qu'il commence à retrouver ses marques. Il va avoir pour le Castellet ce week-end une version corrigée de sa direction assistée. Donc ça va certainement l'aider. Tout ça, on parle de sensations, d'utilisation des pneumatiques. C'est là-dessus qu'il avait à progresser. Donc il a fait tout ça. Il a aussi été très opportuniste. Il a eu un petit peu de chance. Il a pu rentrer au stand, avoir un arrêt gratuit juste après le crash de Stroll. Et il est reparti en pneus durs. Mais il pouvait attaquer ensuite parce qu'il avait des pneus. Pardon, il est reparti en pneus tendres. Et ensuite, sur la fin de la course, il avait des meilleures gommes que ceux qui étaient autour de lui, qui n'en avaient pas changé, qui étaient en pneus durs.
Alors, ça veut dire qu'au classement des pilotes, eh bien, il passe devant Esteban Ocon avec un total de 13 points. Fernando Alonso est désormais donc 11e du classement, vraiment juste devant hein, Esteban Ocon, puisque Ocon a 12 points, il est juste derrière. Il y a effectivement cette nouvelle direction assistée, on verra si ça fera l'affaire. C'est marrant ce que tu nous disais sur l'emballement hein, finalement chez Alpine, parce que pour en revenir à Sébastien Vettel, on fait une petite digression, mais. On s'est un petit peu emballé, on a le sentiment aussi du côté de chez Aston Martin où ça y est, on évoque déjà un plan pour aller chercher le titre mondial.
Alors, ce qui est marrant, Gilles, c'est que tu évoques ces objectifs qui sont la raison d'être de toute façon de ces écuries Alpine, Aston Martin, elles ont le même but, elles veulent être dans le peloton de tête des poursuivants, des écuries challenger, on va dire comme ça, avant de franchir le dernier cap, des podiums réguliers et la victoire. Et c'est le plan pour Alpine en 2022, et c'est le plan aussi à terme d'Aston Martin. Alors, Otmar Szafnauer, le directeur d'équipe, a parlé d'un objectif de 3 à 4 ans, parce qu'il a dit Red Bull, quand ils ont démarré, ils ont été champions du monde au bout de 4 ans. Même chose pour Mercedes. Alors, on corrige un tout petit peu, puisque pour Red Bull, c'était au bout de la sixième année. Ouais. Et puis Mercedes, c'était au bout de la quatrième année. Donc, ça risque d'être un petit peu compliqué. Et puis, chez Force India, ça fait quand même la deuxième fois qu'il nous sort un petit peu cette histoire. l'ancienne écurie Aston Martin, donc, qui était Force India en 2008, ils avaient prévu des podiums réguliers en 2010 et puis un top 3 au Champagne du Monde. Donc,
ah, mais ça marche
il faut redescendre
pas
un petit peu sur Terre. là-dessus, mais je dirais que là où il y aura un petit facteur limitant quand même, c'est qu'ils vont rester une écurie, je dirais, privée en termes de développement châssis et une écurie cliente aussi pour le motoriste, avec le motoriste Mercedes. Et si tu regardes bien, mais ils nous servent le même discours qu'une autre écurie, qui est McLaren, qui est finalement une écurie indépendante, qui a un moteur client Mercedes, mais autour d'eux, ils n'ont que des écuries qui font châssis plus moteur et qui développent les deux en même temps et qui sont, je dirais, par la force des choses, quasiment imbattables. Les écuries qui sont des constructeurs globaux, je dirais, c'est Ferrari, c'est Mercedes, c'est Alpine qui fait la totalité, et ça sera bientôt Red Bull puisqu'ils sont en train de construire le moteur pour 2025. Et là-dedans, quand même, Aston Martin, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont trouver la marge de manœuvre pour battre ces écuries-là. Donc, il y a de l'emballement. C'est certainement aussi pour galvaniser Vettel.
C'est ce que j'allais dire.
Mais voilà, Vettel, il va avoir 34 ans aussi cette année. Si on se reporte à 3 ou 4 ans plus loin, il le sera vers 38 ans, quoi, ce qui sera quand même la limite.
Galvaniser Vettel ou galvaniser Alonso, et puis aussi surfer sur cette dynamique, sur l'ensemble de l'équipe et finalement fixer un cap. C'est plutôt bien joué en termes de management. Maintenant, on leur souhaite de réussir. C'est quand même très ambitieux.
Mais si tu regardes bien les images de l'arrivée à Bakou, il y a Alonso qui va spontanément féliciter Vettel, les plus grands, Raikkonen, pour dire « oui, on sait d'où tu viens et on trouve ça beau ce que tu as fait pour Aston Martin, une nouvelle équipe », entre guillemets, puisque on avait l'histoire de la copie de Mercedes qu'ils ont un peu conservé quand même cette année, faut bien le dire, mais tout le monde était heureux pour Vettel, et Alonso se reconnaissait aussi dans le parcours de Vettel finalement.
Ouais, et puis c'est quelqu'un d'attachant en plus, Sébastien Vettel, humainement c'est quand même quelqu'un qui est attachant, même si on a dit qu'il était arrogant. Ça fait partie des défauts obligatoires à avoir pour être quadruple champion du monde de Formule 1, je pense, que voilà, de vouloir toujours gagner plus. On va passer à la Scuderia Ferrari, nouvelle restructuration chez Ferrari pour passer à la Scuderia 2.0. Stéphane, ça fait pas très très longtemps finalement que les fous du volant existent, et j'ai l'impression que ça fait déjà 14 fois qu'on fait un sujet sur une restructuration chez Ferrari. J'ai regardé la dernière, c'était au mois de février, juste avant le début de la saison. Là, ça intervient au moment où Charles Leclerc a fait deux pole positions consécutives, qu'il a mené un Grand Prix au volant d'une Ferrari depuis quand même un certain temps. Et puis la Scuderia est passée troisième au classement des constructeurs, derrière Red Bull et Mercedes. Du coup, on a le sentiment que Mattia Binotto, en faisant cette nouvelle restructuration dont on va parler, veut surfer un petit peu sur la dynamique qui porte en ce moment la Scuderia.
Il y a une forme d'apaisement quand même, Gilles, tu l'as dit. Leclerc qui a mené un Grand Prix, je me suis dit, tiens, ça fait combien de temps que ce n'est pas arrivé? C'était Vettel au Brésil en 2019, donc fin 2019. Deux pole position de suite, c'est pareil, c'était fin 2019. Donc, la Scuderia patiemment remonte les échelons dans la hiérarchie. Ils sont troisième au championnat. Je dirais qu'ils sont les leaders du second championnat. Le premier, évidemment, concerne Red Bull et Mercedes. Et puis, dans ce deuxième championnat, pour la troisième place, ils sont en lutte avec McLaren. Et puis, il y a les autres derrière, Aston Martin, Alpine, AlphaTauri. Et je dirais que là, le moment est bien choisi pour dire, voilà, on apporte une petite touche finale. Maintenant, on est dans les clous de la performance. Je pense même qu'ils sont un petit peu au-dessus, finalement. Un top 4 leur aurait convenu cette année. Là, ils sont troisième au championnat. J'irais, c'est beau quand même comme rétablissement par rapport à ce qu'ils ont vécu l'année dernière. Et c'est le moment qu'a choisi Binotto, effectivement, pour prendre du recul et pour laisser Laurent Mekies sur le muret. Peut-être à dessein, parce qu'apparemment, il serait absent plusieurs fois cette année, deux ou trois fois, et la prochaine de ses absences serait programmée au Grand Prix d'Austrie, qui va arriver après le Grand Prix de France. Binotto avait déjà été absent l'année dernière, mais ça, c'était pour cause de maladie. Et il a quand même nommé Laurent Mekies directeur de la compétition, ce qui n'est pas rien. Ça devient maintenant un directeur d'équipe, un team principal en puissance, on va dire, parcours d'ingénieur. Il est passé par la FIA aussi, responsable de la sécurité. C'est quelqu'un qui a une vision à 360 degrés quand même. Il est chez Toro Rosso, il s'est occupé aussi de jeunes pilotes pour les former. Donc, il connaît toutes ces problématiques. C'est très, très intéressant. Il était parti à la FIA en espérant en fait avoir à terme le poste de directeur de course qu'occupait Charlie Whiting. Et puis finalement, ça ne s'est pas fait. Il est revenu dans la compétition même, dans une écurie, en passant chez Ferrari. Donc ça, c'est quand même une belle promotion. Et puis derrière, il y a une petite cascade de promotion aussi qui s'est mise en place pour marquer vraiment la dernière touche, comme l'a dit Mattia Binotto, à cette écurie qui doit se mettre en place maintenant pour 2022.
Voilà, alors parmi les nouveautés, Mattia Binotto donc, ne sera plus sur le Muret. Il va céder sa place à un jeune stratégiste de 26 ans, Ravin Jain, c'est un Britannique. Alors, c'est assez étonnant parce que j'ai eu envie de faire un parallèle entre ce qui s'est passé du côté des pilotes, où on va dire que la Ferrari, c'était un petit peu l'équivalent du Real Madrid, quoi. On va recruter des galactiques et on sort la planche à billets. On fait une Dream Team et puis on essaye d'aller chercher le titre mondial. En 1996, Schumacher arrive aux côtés de Eddie Irvine. Au cumul des deux, il y a deux titres mondiaux et 19 victoires. Bon là, c'est que pour Schumacher, mais Irvine avait quand même une somme d'expérience assez énorme. 2010, l'arrivée de Fernando Alonso, double champion du monde, associé à Felipe Massa. Il y a 32 victoires pour les deux hommes. 2015, arrivée de Sébastien Vettel. Alors là, pour le coup, Vettel, quadruple champion du monde chez Red Bull, qui rejoint Raikkonen, qui lui avait déjà été champion du monde chez Ferrari. 5 titres, 59 victoires. Hein, un cumul d'expérience et de succès assez phénoménal. Et là, en 2022, on se retrouve avec Charles Leclerc et Carlos Sainz, c'est-à-dire, évidemment, aucun titre pour l'instant pour aucun des deux, et seulement 2 victoires à mettre à l'actif de Charles Leclerc, qui les a obtenus en plus sous les couleurs de la Scuderia. Et ce changement de logiciel finalement institué par Mattia Binotto quand on a choisi Charles Leclerc aux dépens de Sébastien Vettel, il se retrouve aujourd'hui dans cette restructuration avec l'arrivée d'un tout jeune stratégiste de 26 ans qui va être opposé donc à des cellules de stratèges monstrueuses, Mercedes, Red Bull. C'est vraiment, ça phosphore dans tous les sens. Alors, j'ai envie de dire, c'est un pari audacieux comme nous on en fait en début de saison, Stéphane. Il va y avoir quand même beaucoup de pression sur ce jeune homme. Mais je ne sais pas pourquoi, moi j'ai envie d'y croire, parce que y a du panache, on change les lignes, là, on fait bouger les lignes chez Ferrari, et je suis pressé de voir si ça va fonctionner ou pas.
Alors, ils mettent en place le même dispositif qu'il y a chez Mercedes, où Jens Wolff est assisté par quelqu'un, une dame, pour la stratégie. Cette dame a sorti des choses très, très intéressantes dernièrement. Et Iñaki Rueda va continuer à avoir la main quand même sur la stratégie, tout en endossant le poste de directeur sportif laissé par Laurent Mekies. Alors, le directeur sportif, en deux mots, c'est la personne qui connaît très, très bien le règlement, qui représente l'écurie quand il y a un litige, quand la direction de course appelle les pilotes pour une explication ou pour des explications techniques. Voilà, donc c'est ce travail-là qu'il va faire. Mais effectivement, il file les clés à quelqu'un d'assez jeune. Et je dirais que le couple Leclerc-Sainz, c'est une association du talent. Et on tourne un petit peu la page, justement, de cette course un peu au palmarès ronflant, où on a gardé Vettel un peu trop parce que un quadruple champion du monde, c'est assez emblématique, mais c'était encore plus vrai avec Kimi Raikkonen, qui était quand même vieillissant, il faut bien dire ce qu'il en est, qui était dépassé, et on le gardait parce que c'était le dernier champion du monde avec Ferrari. Et là, on a fait reset, point barre, c'est tout. Donc, au niveau de l'organigramme, au niveau des pilotes, et on repart et on se met surtout en mode 2022. Ça, c'est important, ils veulent que tout soit en place pour passer un hiver tranquille et attaquer très fort l'an prochain.
Ouais, hiver tranquille, je suis pas certain que ça soit si tranquille que ça, parce qu'on sait que ça travaille notamment beaucoup, beaucoup du côté de la motorisation. Il y a deux pistes en ce moment qui sont exploitées par Ferrari, parce qu'après, les moteurs vont être, vont être gelés. Il faut être vraiment le mieux armé possible. Et c'est vrai qu'ils sont presque même en avance, hein, tu le disais au début de ce chapitre, Stéphane, ils sont presque en avance du côté de la Scuderia sur la manœuvre de progression qu'il y avait à faire, j'ai envie de dire même de relèvement de la statue du cheval cabré, parce qu'elle était tombée bien bas après la saison 2020. Et du coup, ça donne des envies, et on voit qu'il y a beaucoup de pistes, et ce rajeunissement, il est finalement dans l'air du temps. On essaye d'effacer un petit peu tout ce qui s'est mal passé ces dernières saisons, repartir avec deux pilotes frais, une cellule de stratégistes qui sera beaucoup plus jeune. On dépoussière, en gros.
Et Gilles, ça se concrétise aussi au niveau de la direction, au sommet de l'entreprise Ferrari, puisqu'il y a un nouveau CEO qui va arriver, Benedetto Vigna, le 1er septembre, juste avant le Grand Prix d'Italie, parce que Ferrari aime faire l'actualité, aime faire l'événement pour son Grand Prix à la maison. C'est généralement le moment où on renouvelle les contrats des pilotes, mais là, on sait que à ce niveau-là, c'est verrouillé. Et lui, il va apporter quelque chose, aussi un regard nouveau. Alors maintenant, à l'heure des budgets qui sont vraiment contenus, au moment où tout est en place pour 2022, je ne sais pas quel impact il aura réellement, mais peut-être sera-t-il moins pressant vis-à-vis de Mattia Binotto, qui, on s'en souvient, avait dit de Sergio Marchionne qu'il lui demandait des comptes rendus quasiment jour et nuit, ou en tous les cas des informations à lesquelles il fallait répondre tout de suite, et qui mettait une grande pression. On verra quelle personnalité il a, comment est-ce qu'il laisse la Scuderia travailler, mais il trouvera une Scuderia qui n'est plus en état de crise. Alors maintenant, 2022, tu as parlé de la technique des moteurs. Effectivement, l'année dernière, ils avaient 70 chevaux de retard sur Mercedes. C'est absolument monstrueux, on en avait parlé. C'est à peu près un an et demi de développement. Ils ont bien divisé par deux ce retard, même plus que ça. Et maintenant, chez Ferrari, on annonce qu'on a des choses quand même dans les cartons qui sont très intéressantes. Laurent Mekies a dit quelque chose de clair. La voiture, en termes de châssis pour 2021, ne va pas bouger. On va avoir de nouveaux ailerons, des choses comme ça pour s'adapter. C'est des choses qui sont déjà étudié, fabriqué pour des circuits spéciaux type Monza, mais la nouveauté, ça va être sur le moteur, où on continue de faire un effort absolument considérable, parce que les moteurs seront gelés l'an prochain, donc tout le monde se presse de mettre des nouveautés au maximum, d'essayer de les tester, et c'est ce qui va arriver d'ici la fin de l'année. Laurent Mekies a dit on va avoir des choses intéressantes, des développements très prometteurs d'ici la fin de l'année, pour repartir sur un cycle de 2022 à 2024 inclus qui précédera les nouveaux moteurs. Alors, qu'est-ce que c'est que ces nouveautés? Apparemment, c'est une meilleure récupération de l'énergie électrique, et puis surtout une meilleure combustion. Ça, c'est vraiment le maître mot chez les motoristes. C'est une injection qu'on qualifie de très très rapide dans la chambre de combustion, et c'est un meilleur remplissage. Là aussi, c'est pareil, c'est là-dessus que travaillent vraiment les pétrochimistes, on va dire. Alors, il faudrait peut-être qu'on fasse venir quelqu'un un jour dans les fous du volant pour qu'il nous explique tout ça, parce que c'est le cœur du progrès en termes de développement d'un moteur. Mais c'est là-dessus que Ferrari a travaillé, et apparemment, vraiment, ils ont passé un cap, ils ont fait sauter un verrou technologique à ce niveau-là. Alors, on ne sait pas ce qui se prépare chez Renault, chez Mercedes, mais en tous les cas, chez Ferrari, on dit qu'on est confiant, et c'est un petit peu nouveau, et on attend de voir ce que ça va donner, mais on les sent capables de franchir ce dernier palier pour être bien pour 2022.
C'est marrant, parce que ça parle beaucoup de carburant aussi du côté de la MotoGP. On en termine avec effectivement l'arrivée de ce Benedetto Vigna, qui prendra ses fonctions donc au mois de septembre, et qui vient, on parlait de Scuderia 2.0, qui vient de la société franco-italienne ST Microelectronics, autrement dit des composants électroniques. On est en plein là dans la modernisation, dans l'avenir de ce que sera la Scuderia et éventuellement la Formule 1. Voilà, la suite, c'est de grandes ambitions aussi du côté de la Scuderia. Mais ça va commencer déjà par retrouver la compétition classique au Grand Prix de France. On en parle justement de ce Grand Prix de France, Stéphane, dans les fous du volant aujourd'hui, avec une interview qu'on a enregistrée il y a quelques jours, parce que vous imaginez bien que là, en ce moment, à quelques heures du début du Grand Prix de France, c'est le feu pour Éric Boullier, le directeur général du Grand Prix de France. On écoute cette interview qu'on a enregistrée il y a quelques jours. Alors maintenant, mon cher Stéphane, on a un invité de marque, Éric Boullier, le directeur général du Grand Prix de France, qui nous fait le plaisir de nous rejoindre. Alors Éric, on est ravis de vous recevoir. C'est la préparation d'un Grand Prix de Formule 1, c'est déjà tendu. Quand on avance la date d'une semaine, on arrive à s'en sortir vivant quand même.
On s'en sort vivant, bien évidemment, et on sera prêt. Mais c'est vrai qu'il y a eu un gros coup de stress, en fait. Et un Grand Prix, c'est ce qui, ça se prépare sur 12 mois. Donc, avancer la date, ça a des conséquences, évidemment, pour les spectateurs qui avaient fait leur réservation. Mais ça a énormément de conséquences pour nous, au niveau opérationnel, parce que c'est 1200 personnes, un Grand Prix, qui travaillent. Et il faut avertir tout le monde et faire que tout le monde puisse... être de nouveau disponible. Enfin, voilà. Et puis je passe sur tous les fournisseurs qui eux aussi ont eu leur délai raccourci d'une semaine.
Bon, nous en tout cas,
toutes les personnes.
Vas-y Stéphane.
Toutes les personnes qui avaient réservé un ticket et qui ne pouvaient pas assister au Grand Prix ont pu être remboursées. C'est ça qui est important.
C'est ça qui est très important. C'est évidemment respecter nos fans et nos spectateurs. Et donc voilà. Donc évidemment tous ceux qui ne pouvaient pas décaler ou avancer une semaine ont été remboursés.
Bon, faut que vous sachiez, hein, Eric, je ne sais pas si vous aviez regardé cette émission, mais nous, dans Les Fous du Volant, on a quand même poussé un coup de gueule parce que y a beaucoup, évidemment, de spectateurs qui se sont retrouvés, coincés avec une jauge pour ce Grand Prix qui est établie à 15 000 personnes. Comment ça va se dérouler le protocole sanitaire autour de ce Grand Prix? Tout est déjà mis en place, tout est déjà figé?
Tout est mis en place, tout est figé, les instructions du gouvernement sont très claires. Alors effectivement, on a pu avoir cette jauge de 15 000 spectateurs parce que sur l'étendue du circuit, qui je rappelle est sur un terrain de 150 hectares, nous avons pu mettre en place 3 bulles sanitaires complètement indépendantes, donc avec des accès indépendants, des parkings indépendants, des contrôles d'accès indépendants, les animations indépendantes. Enfin, voilà, jamais les flux ne se croisent, ce qui nous permet de faire en gros 3 événements de 5 000 spectateurs.
D'accord. Vous parlez des événements, évidemment, parmi les déceptions dues au changement de date et à l'avancement d'une semaine, il y a le fait que Romain Grosjean ne puisse pas venir au Grand Prix faire une démonstration avec la Mercedes. Ça, c'est vraiment une mauvaise nouvelle parce qu'il y avait un rendez-vous pris finalement entre l'ancien pilote français de Formule 1 et puis le public tricolore.
Oui, c'était une belle idée en fait, hein, d'avoir Romain un petit peu comme notre ambassadeur pour lui rendre hommage par rapport à sa longue et brillante carrière en F1. Et puis il y avait cet engagement de Mercedes de lui faire rouler, de lui donner un test en tout cas au volant de cette voiture. Donc le test aura bien lieu, mais maintenant après. Et malheureusement, la démonstration devant le public français ne pourra pas avoir lieu. Et c'est effectivement bien dommage.
Qu'est-ce qu'il y aura comme grande manifestation, donc comme grands événements autour de ce Grand Prix ce week-end?
Il y aura toujours plein de choses, hein, comme vous voyez derrière moi d'ailleurs, la PAF sera là. Donc, mais il y aura aussi la F3 en support series avec le nouveau format en fait, du règlement sportif, le nouveau système de grille inversée, donc je pense que ça va être assez spectaculaire. Il y aura la Clio Cup avec plus de 40 voitures, donc ça va être aussi spectaculaire. Et puis on va penser aussi aux nostalgiques de la F1 des anciennes années, puisqu'on va faire une démonstration de vieilles F1, et je pense qu'on aura aussi quelques V10 ou V8 qui vont tourner, ce qui va un peu ravir les oreilles de nos spectateurs.
Ça, c'est bien.
Et puis, vous avez pu vous réjouir en regardant le résultat du Grand Prix à Bakou, Gasly 3e, Alpine 6e, ça nous vend bien le Grand Prix de France quand même là.
C'est une performance incroyable de Pierre, hein, de nouveau. Hein. On le voit bien, dès qu'il a la voiture et dès qu'il a l'opportunité, il est là, il a fait une course fantastique et sa bataille avec Charles Leclerc a été assez mémorable, on va dire. C'est sûr qu'un Français sur le podium, ça aide. Et avoir Alpine dans les points et qui commence maintenant à être régulièrement devant, c'est aussi, je dirais, une bonne alchimie par rapport au Grand Prix, évidemment, et aux spectateurs.
Stéphane, on a évoqué là pour la F3 des nouveaux formats. Je sais que tu voulais interroger Éric Boullier sur d'éventuels nouveaux formats en Formule 1. Est-ce que ça pourrait intéresser le directeur général du Grand Prix de France? Je te laisse interroger Éric à ce sujet.
Oui, on parle de l'expérimentation des courses sprint, donc qui décaleraient la qualification le vendredi avec une course pour définir la grille de départ le samedi et puis le Grand Prix le dimanche. Est-ce que en tant qu'organisateur, vous avez postulé pour tester cette configuration? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse pour l'avenir?
Alors, nous n'avons pas postulé parce que ça, c'est la FOM en fait qui a pris la décision avec les équipes, donc de vouloir tester et changer ce format. Je crois qu'ils veulent faire une sorte au sein de la saison, il y aura ce qu'on appellera des super week-ends de F1 avec donc ces fameuses courses sprint le samedi. Est-ce qu'on fera partie de ça? On ne sait pas. C'est la FOM qui va décider. Il y a des discussions qui vont commencer, je crois, une fois que le format aura été confirmé, établi et testé en mode réel.
Alors, en tous les cas, il y avait des formats à l'étude. On a testé l'année dernière les Grands Prix sur 2 jours. Ça, c'est mis de côté finalement et ça n'allait pas tellement dans le sens du promoteur, de l'organisateur d'un Grand Prix que vous êtes.
Il faut savoir que sur un Grand Prix, effectivement, en général, la moitié de la jauge du dimanche vient le vendredi. Donc, ce sont vraiment les fans hardcore, comme on dit, les purs et durs. Et puis, je pense que, voilà, même pour la F1, sur un week-end de 2 jours, c'est un peu compressé. C'est vrai que c'est une discussion que j'ai entendue, même quand moi, à l'époque, j'étais en F1. Et je crois que le compromis aujourd'hui, c'est de faire 2 jours et demi, en tout cas, c'est-à-dire démarrer peut-être un peu plus tard le vendredi. Raccourcir le vendredi et ce qui ferait économiser une journée de voyage ou de déplacement en moins pour les équipes. Parce que quand on va passer à 25 courses, forcément, ça va être compliqué à gérer pour les équipes.
Alors, il y a 2 ans, il y avait une discussion un petit peu qui s'était ouverte sur la façon de pouvoir améliorer peut-être le spectacle avec un tracé peut-être différent. Ça, c'était à l'étude. Alors, on sait que le tracé est resté en l'état pour les ans qu'on comprend bien cette année, mais qu'est-ce qui est en réflexion maintenant pour les années à venir? Alors, il y a même les pilotes qui réclamaient la suppression de cette chicane qui crée quand même du spectacle. Alors, sur quoi avez-vous travaillé? Autour de quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait voir de différent dans les années à venir?
On a fait à peu près tous les scénarios avec le circuit et avec la FOM, jusqu'à même redessiner certains virages. Donc pour l'instant, effectivement, ça a été mis de côté. Mais je veux quand même souligner le fait que les pilotes ont des souhaits parce qu'eux, ils s'expriment et ils adorent piloter leur bolide le plus vite possible. Maintenant, il y a des conséquences. Hein. Des conséquences pour les spectateurs, par exemple, parce que nous avons 10 000 places de tribune assises à cette chicane. Donc si il n'y a plus de chicane, il n'y a plus d'intérêt pour les spectateurs. Et c'est là où moi va mon intérêt, c'est d'abord pour les spectateurs. Donc après, on n'est pas encore complètement sûr que cette chicane enlevée, ça va forcément améliorer le spectacle. En tout cas, la plupart des dépassements se passent à cette chicane. Donc on regarde un peu tout. La FOM s'est équipée d'outils de simulation qui sont assez performants et puissants. Donc on va réouvrir le dossier sûrement à un certain moment et puis repasser tout ça dans les simulateurs de la FOM pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire parce que forcément, si on choisit de modifier le tracé, il y a évidemment un coût et un investissement certain, donc on doit prendre les bonnes décisions.
Juste une petite question aussi. Vous avez encore une année de contrat, me semble-t-il, pour l'année prochaine, pour accueillir la Formule 1. Comment ça se passe le calendrier justement pour renégocier la reconduction d'un Grand Prix sur un site précis?
Ça dépend simplement, les deux parties doivent s'asseoir autour d'une table. Après, en général, la FOM ne commence jamais les discussions, voire les négociations, avant l'avant-dernier Grand Prix. Donc, on va dire qu'il faut attendre de passer l'avant-dernier Grand Prix pour que les discussions soient ouvertes.
Est-ce que ça fait un petit peu peur quand même que le promoteur de la Formule 1 dise qu'il y a des grands prix historiques, mais qu'ils ne vont peut-être pas tous rester à l'avenir?
Vous savez, il y a beaucoup de demandes pour déjà pour l'avoir vécu, hein, puisque j'ai quand même participé au retour du Grand Prix de France. C'est énormément de discussions, de négociations pendant des semaines et des mois. Il y a effectivement beaucoup d'intérêt pour la F1. Hein. On sait que à travers le monde, des villes ou des pays aimeraient bien recevoir la F1. Après, il y a aussi une certaine crédibilité à avoir parce que il faut pas que avoir un Grand Prix. Quand on a la chance d'avoir un motoriste français, une écurie française, des pilotes français et des pilotes qui sont sur le podium, ça fait du sens pour la F1 d'avoir un Grand Prix en France. Donc, il faut essayer d'avoir cet écosystème pour que ça fonctionne. Et puis il y a une limite aussi. La F1 aujourd'hui aura du mal à aller au-delà de 25 Grands Prix parce que les équipes vont pas pouvoir suivre le rythme infernal des saisons.
Et puis au retour du Grand Prix de France en 2018, après la course, le promoteur avait dit que le Grand Prix de France avait retrouvé sa place naturelle parce qu'il y avait un cachet particulier, il y avait quelque chose de spécial. On le voit déjà rien qu'en regardant le circuit, l'aspect graphique, l'ambiance, l'environnement. C'est sur la Riviera, les Anglais critiquaient beaucoup Manicourt. Enfin, ce Grand Prix de France au Castellet a tout pour s'installer durablement.
Ce qu'on appelle la Summer Race, hein, donc la première course de l'été. C'est vrai qu'on espère en faire un événement, comme on dit, iconique, hein, c'est-à-dire que les gens soient contents de venir. C'est vrai qu'on est quand même dans une des plus belles régions du monde, hein, la région sud en France, avec tout l'environnement, quel qu'il soit, gastronomique, culturel, autre, ou la mer évidemment, mais il y a quand même énormément de choses à faire. C'est quand même un lieu de villégiature qui est quand même très, très, très aimé. Donc forcément, avoir une course ici, c'est un peu magique quand même. Et puis surtout au début de l'été, ça permet de donner un petit avant-goût des vacances.
Oui, puis là, c'est une observation totalement personnelle, hein, Eric, mais rien que la route pour aller au circuit, quand on monte de la côte, ça fait partie. C'est pas une autoroute classique comme on a sur quasiment tous les circuits. Ça fait partie un peu de la signature de ce Grand Prix. On avait évoqué il y a quelque temps la signature de Bakou avec cette interminable ligne droite, mais au Castellet, il y a l'environnement aussi qui fait partie intégrante du Grand Prix.
Vous savez, chaque Grand Prix a son identité propre, hein, et c'est ça qu'il faut découvrir. C'est aussi pour ça que l'année dernière, après avoir annulé le Grand Prix, pour remotiver les équipes, j'avais mis tout le monde autour travailler autour du profil du spectateur français. Ce qui nous a permis un petit peu justement de pouvoir cibler ensuite toutes les offres et de faire en sorte qu'évidemment on devienne un Grand Prix, que les gens sont bien, veulent venir en profiter, s'amuser et repartent avec le sourire le dimanche.
Voilà. Justement, ça sera peut-être notre dernière question. Dans quel état d'esprit vous êtes, là ça sera l'avant-dernière manifestement, dans quel état d'esprit vous êtes après une parenthèse de 2 ans, cette période très compliquée qu'on a vécue il y a un an avec donc l'annulation du Grand Prix de France 2020, quel est votre sentiment là à quelques heures maintenant de l'ouverture des grilles et de reprendre l'activité que vous aimez?
Écoutez, très excité, très content évidemment que le Grand Prix ait lieu, que la vie reprenne, voilà, avec des grands événements, avec des spectateurs, même si on a toute la sécurité sanitaire en place autour de nous, mais c'est vrai qu'on est extrêmement content et fier que notre Grand Prix national ait lieu.
À l'heure où on enregistre cet entretien, parce que évidemment c'est disponible sur les réseaux, donc c'est enregistré, il reste encore des places pour le vendredi et le samedi, c'est ça?
Il reste des places pour le vendredi, il reste très peu de places pour le samedi, et le dimanche on est complet.
Stéphane, tu as l'honneur de la dernière question à Eric Boullier.
Oui, pour saluer la mémoire et l'œuvre d'un grand monsieur de la Formule 1, un fondu de sport auto, de compétition, mais au-delà, on a appris le jour du Grand Prix d'Azerbaïdjan la disparition de Mansour Hodje, qui a fait énormément pour l'écurie Williams et surtout pour l'écurie McLaren, qui a financé à travers sa société TAG la construction d'un moteur Porsche qui a remis McLaren sur le devant de la scène. Et c'est pour ça que McLaren est redevenu ce qu'était une grande, grande écurie qu'on est heureux de revoir au premier plan. Et Eric, vous avez eu une relation humaine de travail, mais pas que, particulière avec Mansour Hodje.
J'ai eu l'immense privilège et l'honneur de travailler avec lui et pour lui. Et effectivement, c'est quelqu'un qui est très discret, mais très présent, un vrai grand patron, entrepreneur, leader avec un très fort charisme et surtout une immense passion et respect pour le sport automobile, pour la F1, pour les pilotes. Et il était très discret mais très présent et c'est évidemment, j'ai même dit que c'était une des légendes du paddock parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit Stéphane, il a fait les bonnes heures de Williams, mais surtout il a grandement participé à ce que McLaren est devenu, pas seulement une écurie de Formule 1, hein, mais une écurie de légende, mais aussi un constructeur automobile et autres. Donc voilà, c'était un grand monsieur, comme on dit, du paddock, et il va tous nous manquer.
Voilà donc pour ce Grand Prix de France, on va donner les horaires, Stéphane, avec les essais libres 1 qui débuteront vendredi à partir de 11h30, la deuxième séance d'essais libres dans l'après-midi à 14h30, les qualifs, samedi à 15h et la course dimanche également à 15h. Ça sera d'ailleurs la première étape d'une série de 3 Grands Prix en 4 semaines. Il va y avoir le Grand Prix de France, les deux rendez-vous donc sur le circuit de
Spielberg.
De Spielberg, voilà, je cherchais le nom pour pas donner le nom commercial. Voilà. Ensuite, un petit week-end de repos et après le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, avant une trêve estivale bien méritée par le peloton. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de Deezer à Spotify. De plateformes d'écoute. De Deezer à Spotify en passant par Acast et par Apple Podcast, je le répète trop, au bout d'un moment je me mélange. N'hésitez pas, ça c'est le plus important, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner. Et comme ça, au prochain numéro, eh bien, ça arrivera directement sur votre smartphone. Je crois qu'on a été complet, Stéphane, avant ce Grand Prix de France.
On a essayé ce Grand Prix du cinquantenaire du premier Grand Prix de France au Castellet, donc un petit moment d'histoire, un de plus. J'espère que ça va être sympa et que la course sera intéressante. Tout est là pour ça et avec du public.
Et nous, on donne rendez-vous pour le nouveau numéro des Fous du Volant post-Grand Prix de France. Ça sera en début de semaine. Merci d'avoir été avec nous. Et Stéphane, on coupe le contact.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.